Inimatov, ah, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Vous avez entendu le psaume 133, 132 dans la Bible latine, qui est plutôt la vôtre, 133 pour nous qui sommes protestants, qui nous alignons sur les numéros de la Bible hébraïque. Le psaume 133 chanté en hébreu, d'après apparemment la musique qui est inscrite en petits caractères au-dessus des lettres dans les manuscrits hébreux. Ah, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. J'ai pensé que le plaisir que j'avais à être parmi vous ce soir méritait qu'on se replonge dans cette musique et qu'on participe à cet enracinement dans ce texte biblique très ancien, comme ouverture à cette promenade que je vous propose de faire en cette période d'Avent. L'Avent, comme vous le savez, c'est la période de préparation de la célébration de la venue du Christ parmi nous. C'est donc une période qui se situe d'une certaine manière sous le signe de l'attente. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui et les mardis suivants, c'est de nous inscrire dans ce mouvement d'attente, d'essayer de retrouver en nous notre capacité à nous mettre sous le signe de l'attente, et cela de différentes façons. Et pour commencer peut-être, je vous propose de nous pencher tout d'abord sur l'attente telle qu'elle habite notre vie de tous les jours. Dans les différentes situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver en train d'attendre des choses positives comme des choses négatives, ou bien des choses que d'autres autour de nous ou de contrées plus lointaines peuvent eux aussi se trouver en train d'attendre. Et d'abord, en commençant peut-être par les choses négatives, attendre comme des bêtes à l'abattoir. Attendre un malheur annoncé. Et là, nous pouvons penser à nos frères en Syrie, ou en Irak, ou en des lieux semblables, alors que se multiplient autour d'eux les explosions et les bombardements de toutes sortes. Ou à ceux qui s'embarquent de nuit sur des bateaux gonflables, qui traversent la Méditerranée sans savoir ce qui les attend de l'autre côté, si toutefois leur traversée atteint son terme. Ou bien, nous pouvons nous remettre en mémoire l'attente de choses incertaines qui nous concernent plus directement, nous-mêmes ou nos proches. Attendre un verdict médical, attendre l'issue incertaine d'une opération ou d'une guérison, attendre quelqu'un qui ne vient pas, attendre quelque chose qui n'arrive pas. L'attente peut aussi revêtir une dimension plus positive. Ainsi, par exemple, attendre une bonne surprise, attendre un bonheur promis, ou bien encore, l'attente peut laisser un espace ouvert entre moi et ce que j'attends. Attendre sans savoir quoi, attendre sans savoir quand, être en avance et attendre un train annoncé, attendre un enfant, attendre la naissance d'un enfant, attendre quelque chose de sûr, mais sans savoir quand. L'on peut aussi retourner la question en direction de nous-mêmes et se demander qu'est-ce qui est attendu de moi ? Et si cette attente s'inscrit dans un face-à-face, dans une relation qui cherche à se construire, cela peut devenir attendre le regard de l'autre, attendre le regard de l'autre sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on a dit, sur soi-même et comment on se présente devant les autres. Dans l'autre sens, il y a aussi des situations où l'on n'a plus rien à attendre. Peut-être, pour bien mettre l'attente en perspective, est-il utile de commencer par le contraire et de s'interroger sur les situations où l'on n'a plus rien à attendre? Celui qui n'a plus rien à attendre, en est-il arrivé là parce qu'il est rassasié de malheur ou au contraire parce qu'il a eu tout et qu'il possède tout? Commençons par le premier cas. Et pensons par exemple à cette terrible absence d'attente où nous voyons parfois conduits nos proches ou nos moins proches victimes d'états dépressifs et qui n'attendent plus rien de la vie. Ou bien à ces jeunes qui n'attendent plus rien de notre monde et qui sont prêts à le supprimer et eux-mêmes avec eux ou avec lui. Ou bien au contraire, la situation de ceux qui se trouvent à vivre leur maladie terminale et qui parfois se révoltent et qui parfois découvrent en eux-mêmes une profondeur spirituelle qui vient à eux comme une promesse. Mais l'on peut aussi se demander de façon beaucoup plus banale pourquoi tant de gens jouent à la loterie ou aux courses ou au loto ou à tous ces jeux de hasard qui surgissent autour de nous. Pour avoir quelque chose à attendre, pour mettre un peu de suspens dans leur vie, même pour un bref instant, pour se sentir vraiment en vie. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu du côté des Écritures, de quelle façon certaines figures des récits bibliques peuvent nous éclairer sur la place de l'attente dans nos vies. Je vous propose donc de nous livrer à une lecture buissonnière de certaines pages de la Bible en faisant ainsi mémoire de cette redécouverte du texte biblique dans toute sa richesse et dans toute la complexité de son déploiement, cette redécouverte que nous devons à Martin Luther de l'avoir remis au cœur de la vie de nos églises, tant catholiques que protestantes. Et cela dans notre monde occidental dans lequel nous sommes tous. Donc notre lecture nous conduira à glaner quelques figures d'attente au gré des pages de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Et pour commencer, je vous propose une page d'Évangile. Vous connaissez la parole du Christ en Matthieu, Matthieu 5, 18. « Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. » Un texte bien connu qu'on peut comprendre de beaucoup de façons. Et je vous propose une façon particulière de le comprendre à la lumière de notre méditation d'aujourd'hui. Il ne disparaîtra pas un seul iota. Le iota, en grec, c'est la lettre I, c'est un petit trait vertical. Mais Jésus ne parlait pas grec, il parlait plutôt hébreu ou araméen. Mais il connaissait sa Bible en hébreu. Et donc, lorsque Matthieu a écrit ce passage, il a pensé transcrire en grec de l'hébreu. Et en hébreu, il y a bien une lettre qui a la forme d'un petit trait vertical. Cette lettre s'appelle le yod. Et le yod a un rôle très particulier dans la langue hébraïque. Le yod est la lettre qu'on met devant un verbe pour le mettre à l'inaccompli. Alors ça, il faut que j'explique. En français, on a des temps, le présent, l'imparfait, le plus que parfait, etc., le futur. En hébreu, il n'y a que deux façons de dire. Il y a le parfait, ce qui est fini, l'accompli, et l'inaccompli, ce qui continue, qu'on traduit souvent par le futur. Donc, si je mets le yod devant le verbe, il est au futur. Si je l'enlève, il est au passé. Et donc, lorsque Jésus parle du iota, il veut dire « la vie continue, tout n'a pas fini d'avoir lieu, il est en train de se passer quelque chose. La vie, votre vie est en cours, il y a quelque chose devant vous, devant nous, quelque chose à attendre, quelque chose à espérer à chaque instant de notre vie. Rien n'est jamais acquis pour de bon. » La vie est toujours ouverte devant nous, toujours sous le signe de l'espérance, et cela jusqu'au dernier souffle. Cette façon de comprendre ce que dit Jésus, elle est bien illustrée par une petite histoire rabbinique. Et il est toujours intéressant d'aller regarder l'arrière-plan juif de ce que dit Jésus et dans quelle culture ça s'insère. Et donc là, c'est une histoire bizarre qu'on doit à Rabbi Siméon et qui parle de Salomon. Et Salomon, vous connaissez bien, c'est le roi sage. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche du début de notre ère, on commence à juger Salomon différemment. Et il était très sage, mais on lui fait aussi un certain nombre de reproches. Et je vous raconte la petite histoire, un peu curieuse. Le livre du Deutéronome monta se prosterner devant le Saint béni soit-il, et lui dit « Maître de l'univers, Salomon m'a déraciné et a fait de moi un document périmé, car un testament dont deux ou trois mots sont annulés est entièrement invalidé. Or, le roi Salomon a cherché à déraciner la lettre Yod de mon texte, car il est écrit dans le Deutéronome, il ne multipliera pas pour lui les chevaux. Et Salomon a multiplié pour lui les chevaux. Il est écrit, il ne multipliera pas pour lui les femmes, et Salomon a multiplié pour lui les femmes. Il est écrit, il ne multipliera pas pour lui l'argent et l'or, et Salomon a multiplié pour lui l'argent et l'or. Le saint, béni soit-il, lui répondit, va, c'est Salomon qui sera éliminé, et sans comme lui, mais pas un seul iode de ton texte ne sera jamais annulé. Bon, donc, on voit bien la place du iode dans la parole de Christ. Et, comme je vous l'ai dit, Salomon n'avait pas une très bonne presse parce que des gens comme Rabbi Siméon lui reprochaient d'être repu, d'avoir tout et de ne plus rien avoir à espérer. Et détenir, posséder, sont des verbes sans vie, des verbes qui tombent tout de suite dans le passé. Je ne suis pas ce que je possède. Dans notre monde qui ne cesse d'accélérer, combien de choses nous ne proposons pas sans cesse d'acquérir ? Il suffit en cette saison d'avant Noël de sortir dans la rue, de passer devant des vitrines, de lever le nez, de voir des affiches, et partout, 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 on nous propose des choses et des choses à acquérir, à acheter. Dans le moment de l'attente de Noël, c'est peut-être paradoxal. Combien de fois nous promettons sur un sujet ou sur un autre une réponse en temps réel, une livraison immédiate. Peut-être notre culture du tout, tout de suite, fait-elle de nous des Salomons, malheureusement au sens de Rabbi Siméon et pas au sens du roi sage. Peut-être nous fait-elle perdre ce sens de l'attente qui maintient en alerte, qui nous rend réellement vivants. Et puis posons-nous une question. Est-il possible de prier si l'on n'attend rien ? Encore une fois, jetons les yeux sur une page d'Évangile et relisons un instant la parabole du pharisien et du publicain dans l'Évangile de Luc. Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, malfaisants, adultères ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je paye la dîme de tout ce que je me procure. Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Je vous le déclare, celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Le pharisien est un homme sûr de lui. Il a la certitude qu'il possède le salut et il en remercie Dieu. Rendre grâce est une façon de se mettre devant Dieu et remercier ce qu'on a reçu n'est pas en soi répréhensible. Bien au contraire, c'est même une dimension importante de notre relation à Dieu que de le remercier, que de lui rendre grâce. Mais le pharisien n'attend rien de Dieu. Pour lui, le fait qu'il soit juste est un acquis. Cela a eu lieu, c'est derrière lui. En respectant la loi, il ne fait que confirmer pour lui-même cet acquis et il n'a besoin de rien d'autre. Il n'a rien à attendre. Ce dont il a besoin, il l'a. Essayons, malgré tout, de nous abstenir de tout jugement de valeur et regardons le publicain. Il sait qu'il y a dans sa vie cette attente irréductible. Dans sa prière, le publicain attend la miséricorde de Dieu. Il attend le don de Dieu. Il regarde devant lui et attend. Et ce qu'il attend est un don gratuit de Dieu. Cette histoire du pharisien et de la certitude du salut est un fil qui traverse toute notre histoire et qui répond à un très profond désir humain, un désir de fermeture, de clôture, d'assurance solide, concrète, sans hésitation. Ainsi, au temps de la Réforme, dont nous commémorons ensemble le 500e anniversaire et qui me vaut d'être parmi nous aujourd'hui, une question qui a divisé les chrétiens était précisément cette question de la certitude du salut. Comment être sûr aujourd'hui, maintenant, tout de suite, comment être sûr que je serai sauvé? Alors là, je vais caricaturer beaucoup. Je vais forcer le trait pour essayer de poser le problème de façon aussi crue et brutale que possible. Donc je vais être simplet et rude. Voilà. Il y avait deux réponses. La réponse venue de Rome et la réponse des réformateurs. La réponse venue de Rome, c'était « L'Église peut vous aider à obtenir votre salut. » Et cela de beaucoup de manières différentes. Soyez de bons paroissiens. Mais le plus facile pour vous est d'acheter des indulgences. En effet, il fallait des fonds pour achever la reconstruction de Saint-Pierre de Rome et en faire la plus haute église d'Europe. Donc, on avait besoin d'argent. Et le répétait partout, au prône, dans toutes les églises, le dimanche et pas, et tout le temps. Investissez votre argent dans l'achat d'indulgences et cela vous garantira le pardon de vos péchés. Évidemment, ça a fait hurler Luther, d'où les 95 propositions sur l'église de Wittenberg. Je ne raconte pas l'histoire, vous la connaissez, vous ne la connaissez pas, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. La contre-réponse de Luther, mais surtout de Calvin, c'était « Vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Tout est décidé indépendamment de vous. » En forçant un petit peu, on aboutit à la doctrine de la prédestination « Tout est déjà joué ». Dans les deux cas, du côté de Rome comme du côté des réformateurs, l'on aboutissait à vouloir arrêter le temps, à vouloir savoir tout tout de suite, à enlever toute attente de la vie, d'une certaine façon, à mettre l'expérience de la vie entre parenthèses. Du côté romain, on confondait avoir un droit sur Dieu avec faire confiance à l'amour de Dieu. Du côté des réformateurs, on plaçait Dieu au-delà de toute attente humaine. Non, je n'ai aucun droit sur Dieu. Je ne peux pas l'obliger à me pardonner. Mais oui, je peux le lui demander. Je peux attendre quelque chose. de l'amour de Dieu, de son amour gratuit. Cela s'appelle la grâce. C'est quelque chose que l'on ne peut qu'attendre. Quel que je sois, quel que soit ce que j'ai fait, dans son amour, Dieu peut me regarder avec bonté, avec bienveillance, avec miséricorde. L'amour ne se pèse pas sur une balance, il ne se mesure pas avec un chronomètre. C'est quelque chose qui est toujours en train d'arriver, quelque chose qui ne peut se comprendre que sous le signe de la confiance. Parvenu à ce point de notre méditation, nous pouvons nous poser en nous-mêmes une question et la garder jour après jour en arrière-plan. Laissons-nous une place au iode dans notre vie. Gardons-nous dans notre vie une place pour l'inaccompli, pour ce qui est toujours en train de se faire, toujours ouvert, peut-être surprenant ou inattendu, mais toujours dans l'attente sans cesse renouvelée de la présence de l'amour de Dieu dans notre vie. Ou préférons-nous simplement investir dans des biens dont la possession nous rassure? Au début, parmi les exemples d'attente que on avait évoqués, il y avait attendre quelque chose de sûr, mais sans savoir quand. N'est-ce pas cela, la foi, cette confiance que l'on a en Christ, cette certitude d'une vie avec lui? Et ne pas savoir quand nous maintient toujours en avant de nous-mêmes, avec quelque chose devant nous, comme chaque repas pris s'ouvre vers le repas suivant, comme chaque respiration de nos poumons s'ouvre vers la respiration suivante, comme chaque battement de notre cœur s'ouvre vers le battement suivant, comme chaque Eucharistie s'ouvre sur la suivante. La vie que nous sommes appelés à vivre est une vie ouverte, une vie en attente de quelque chose qui est toujours devant nous. Sur quoi porte cette attente? Peut-être est-ce la question que je vous invite à méditer au cours de la semaine qui vient. Sur quelle attente s'ouvre notre foi? La semaine prochaine, nous nous pencherons sur certains des textes bibliques retenus pour les dimanches de l'Avent, sur d'autres textes aussi, et nous verrons de quelle façon ils peuvent nous aider à répondre à cette question. Merci.